poussé la porte de son jardin de femme, y découvrir ses terres, ses saisons.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Sagesse de femmes, mon corps, mon cœur et ma tête, une émission dédiée aux femmes et à leur santé, ouverte à tous, qui a lieu une fois par mois, le mardi, à 18h, au studio de Micro Rebelle à la Maison des Jeunes Buissons à Lens et en direct sur notre site microrebelle.fr. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une rencontre toute particulière, avec une invitée de marque. Et si l'on rencontrait la naissance ? Autour de la table ce soir, nous avons la chance d'accueillir trois précieuses femmes. Émilie Canevé, Coralie Hublier et Emmanuelle Lascavituette, qui porteront leur voix et nous parleront de leur cheminement, au cœur de leur cycle, ainsi qu'Elsa à mes côtés pour l'émission et à la technique. Je suis Anastasia Dussossois, sage-femme et fondatrice de l'émission. Et c'est avec une grande joie que j'ouvre une fois de plus cet espace avec vous ce soir. Pour rappel, ici, il n'y a pas de vérité. Simplement des expériences, des constats, des questionnements, et aussi des partages de femme à femme, de cœur à cœur, vers l'équilibre et vers la santé. Je dis alors merci à toutes celles et ceux qui, par leur partage, leurs expériences et leur présence dans ma vie, m'ont inspirée dans tout ce qui sera dit ici. Et je vous invite à vous laisser glisser dans ce voyage haut en couleur, en vous prenant avec moi pour quelques instants au cœur d'une naissance dont j'ai été le témoin.
Il est 4h25. Elle respire, c'est fort. Très fort. Trop fort. Il est temps. Ses deux autres filles nous rejoignent dans le salon de la maison, pleines d'excitation de voir leur petite sœur, la troisième fille, naître. Voilà. Elle rugit maintenant. Quelle femme! Elles sont prêtes, toutes les deux, la mère et la fille, à faire le grand plongeon. A quitté le lien du corps pour le lien du cœur. Son mari est là, ses mains aimantes l'enveloppent, cette femme qu'il aime et qui l'accompagne à présent.
C'est la poussée. Son corps s'ouvre avec grâce et la tête de l'enfant épouse chaque fibre de son intime. C'est doux et intense à la fois. Encore une poussée et cette petite fille qui sort du corps de sa mère en toute fluidité. Je l'accueille avec mes mains et j'attends. Viens chercher ta fille, elle est arrivée. La femme prend son enfant, les yeux ruisselants, sous le regard pétillant de son mari. Les deux grandes sœurs les rejoignent et découvrent leur petite sœur fraîchement née. C'est simple, c'est ainsi une nouvelle fille qui deviendra femme, offerte à présent à la terre.
Pourquoi en parler ?
Alors, commençons. Sachez que nous pourrons répondre à toutes vos questions à la fin de l'émission en direct, dans le studio ou en différé sur notre page Facebook Sagesse de femmes. Alors pourquoi la naissance est-elle importante dans notre vie ? Dans l'histoire d'une société. N'est-elle pas la porte par laquelle nous entrons tous, individuellement et collectivement, dans la grande aventure de la vie, en traversant le corps de nos mères, ces femmes, qui nous ont portés, nourris, aimés à leur façon. Que serait la société et l'histoire sans la naissance des enfants ? Si l'on revient à son fonctionnement de base, la naissance des êtres humains est d'abord et avant tout un processus naturel, physiologique, géré par toute la danse des hormones de notre corps. La naissance fait donc partie des fonctions vitales normales d'une femme et d'un bébé en bonne santé. En effet, comme le raconte si bien Michel Audan, gynécologue obstétricien français, disciple de la physiologie des naissances, nous faisons partie des mammifères qui peuplent la Terre, et la naissance est bien là pour nous le rappeler. Or, la naissance est aussi un phénomène éminemment social et politique, tant les fondements de chaque société humaine qui a existé et qui, je l'espère, existera, s'établit sur la façon dont les enfants naissent. Une naissance naturelle signifie qu'aucun médicament n'est donné à cette femme lors du processus de mise au monde. La physiologie en appelle à la sagesse du corps, à la loi qui régit ce mécanisme instinctif et archaïque de l'enfantement. La naissance humaine est sociale, car elle va vers l'autre et crée ce qui est à la racine de l'établissement de notre humanité, la relation. Un enfant naît, une femme naît mère, un homme naît père autour de cet enfant. Une famille interreliée se fait jour. Ainsi, la naissance est une danse qui rassemble les peuples et fait évoluer le monde. Rien que ça. Alors, vous entendez bien, la naissance est un processus instinctif dont chaque femme sur Terre détient le programme. C'est donné, c'est inscrit en chacune de nous. Maëti Trélin, sage-femme, expérimentée dans l'accompagnement des naissances naturelles et du féminin, nous parle de cette physiologie comme étant le code commun universel des femmes. Et c'est vrai que, en tant que sage-femme, pour avoir été témoin de naissances tant sur des paillasses au cœur de Madagascar qu'en France et en Belgique, dans la chaleur des maisons, ou encore dans des balnéos luxueuses au Québec, j'ai vu comme les femmes passent toutes par ces grandes portes de la naissance, avec bien sûr toute la subtilité propre à chaque femme dans l'expression de sa physiologie. La naissance est un cycle naturel de la vie, un cycle complet, portant en lui toutes les saisons de la nature. La grossesse, période de pleine expansion au monde, lorsqu'elle arrive à terme et le fruit est mûr, sonne la fin de l'été. C'est alors que l'automne arrive à l'intérieur de la femme pour l'inviter à laisser tomber tout ce dont elle n'a plus besoin du haut de ses branches. L'automne, c'est tout ce cheminement que l'on appelle le travail de la naissance, le travail des contractions. Amandine Martin, sage-femme brésilienne, dit que lors du travail de naissance, la femme est en face à face avec elle-même, tant dans ses ombres que dans sa puissance, un peu comme juste avant nos règles. Une clarté juste et parfois incontrôlable, inconfortable. Et puis vient le moment où on touche le fond, lors du travail de l'accouchement. C'est ce moment où la détresse prend toute la place et où la femme croit qu'elle ne pourra pas y arriver. C'est la phase de désespérance. Elle est mise à nu, à genoux, devant la puissance et l'immensité de la naissance qui la traverse. Elle est au fond de l'hiver. Alors, c'est en touchant le fond véritablement et en s'abandonnant à son seul ami que cette femme va s'élever à nouveau et son énergie va remonter avec elle, comme un feu de joie jaillissant vers son enfant. C'est le printemps, le temps de l'aventure, de l'amour, de la rencontre. Voici ce que j'observe en tant que sage-femme quand je suis auprès d'une femme qui enfante, d'une famille qui naît. Cependant, si toutes les femmes savent enfanter naturellement, si tous les bébés savent naturellement naître et si tous les pères savent aussi se placer autour de leur famille pour ce passage, il y a une réalité qu'il est essentiel de considérer. Nous ne vivons pas dans un système qui est naturel et physiologique. Nos postures quotidiennes, notre rythme de vie souvent effréné, nos habitudes alimentaires, notre contact avec la nature, ne sont plus ceux d'autrefois. Et bien que la technologie actuelle ait permis de nombreux bénéfices pour la santé des femmes et des enfants, permettant grâce aux anesthésies et aux découvertes scientifiques de sauver de nombreuses vies, peut-être est-il venu le temps de revenir à un point d'équilibre entre la science et la physiologie, entre la volonté de notre esprit et la sagesse de notre corps. Alors, pourquoi choisir de vivre une naissance naturelle et physiologique ? Comment ce cheminement peut-il permettre de reconnecter cette sagesse instinctive et humaine ? C'est ce que nous allons explorer ce soir en rencontrant trois femmes qui ont vécu cette expérience de naissance naturelle et notamment accompagnées à domicile.
La voix d'une femme.
Alors ce soir, c'est trois femmes qui viennent porter leur voix et nous parler de leur cheminement au fil de leur rencontre avec cette fameuse naissance. Et je vous propose donc, chacune, mesdames, de vous présenter en quelques mots, de pourquoi pas partager votre état d'esprit du jour à nos auditeurs et auditrices. Alors Émilie, je te propose de commencer.
Alors je m'appelle Émilie, j'ai 35 ans, je suis mariée. Dans la vie, j'aime beaucoup créer, lire, cuisiner, j'aime la nature et surtout j'aime les enfants, leur pureté, leur curiosité, cette soif de tout découvrir. Et donc je suis enseignante de 24 petits CE2 dans une école qui est située au plein cœur de la forêt. Et j'aime d'ailleurs aller en sortie scolaire avec mes élèves dans la forêt pour ce contact pur avec la nature. Et je suis aussi une maman épanouie de 4 enfants. Donc je les appelle mes 4 saisons puisque j'ai un fils qui est né en hiver, une fille qui est née au printemps, un petit qui est né en automne et un autre qui est né en été. Et je suis aussi maman d'un petit ange. Et il a toute sa place dans notre vie de famille aussi. Alors aujourd'hui, je suis heureuse pour plein de raisons et je suis aussi heureuse d'être là avec vous toutes ce soir. Et je tenais beaucoup à remercier Anastasia pour sa chaleureuse invitation. Ça me permet de faire encore vibrer encore et encore la naissance de mon petit Gaëtan. Donc Gaëtan, c'est mon bébé d'automne. C'est vraiment important pour moi parce que j'en ressens encore le besoin d'en parler, de partager cette expérience. Ce qui m'amène à vous dire pourquoi j'ai accepté l'invitation d'Anastasia. Et bien déjà pour revivre par la parole cette fabuleuse parenthèse de ma vie, la grossesse de Gaëtan. Donc au début, c'était vraiment un premier semestre, les 3 premiers mois, c'était vraiment en apnée, la peur de perdre aussi mon bébé. Et puis après, on s'est dirigé vers l'accompagnement global de la naissance de notre bébé auprès de Sarah et Anastasia. Et là, la grossesse a pris un tout autre tournant. Et de ce moment-là jusqu'à sa naissance et le postpartum, j'ai vraiment baigné dans de la lumière, dans la nature, dans... Voilà, c'était vraiment... C'était touchant, c'était vrai, c'était concret. Et avant d'avoir mon 4e enfant, quand les gens me disaient « on nage dans le bonheur quand il venait d'avoir un bébé », je me disais « mais ils mentent tous, c'est pas possible, ils racontent n'importe quoi ». Et puis Gaëtan est arrivé. Et puis maintenant, je peux dire qu'on a nagé dans le bonheur et qu'on nage encore dans le bonheur avec nos petits choux. Et puis j'ai aussi accepté cette invitation parce que j'ai envie de transmettre mon histoire, ce que j'ai vécu de mon aînée, donc ma fille, mon petit printemps, jusqu'à la naissance de Gaëtan. C'est important que les femmes et ma fille sachent qu'elle peut choisir sa façon d'enfanter. Et voilà, je veux que... Voilà, ça fait partie de mon histoire, de mon vécu. Et je pense qu'on ne doit pas subir son accouchement, on a le choix. Donc je finirai là-dessus. On a le choix de ce qu'on veut vivre au moment d'enfanter.
Merci, merci Émilie. Très, très, très touchant de t'entendre nous partager ton périple vers cette naissance. Et on est très, très ravis de te recevoir ici. Merci, merci.
Merci Anastasia.
Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler de toi ?
Oui. Je suis artisan créateur, j'aime rêver, imaginer, concevoir, rechercher, écouter, apprendre, tester, réaliser et recommencer. Je suis couturière, costumière, touche à tout. J'ai eu 3 enfants avec Guillaume et la dernière est née le 16 juillet, cet été. J'essaie de mon mieux de participer à ce changement qui s'opère sur la vision de nos corps, de nous-mêmes, nos rapports aux autres et aux vivants. J'aspire à devenir un extraterrestre comme dans le film La Belle Verte de Colin Serrault. D'avoir ce super pouvoir d'étonner les gens qui nous entourent par mes actions et mon mode de vie. Je lutte joyeusement pour une reconnexion, une reconnaissance de notre terre-mère.
Magnifique partage, merci Manuel. Merci beaucoup d'être avec nous. Et enfin, Coralie, qui es-tu?
Eh bien, je suis créatrice d'attrape-rêves personnalisées et moi-mémisant avec mon entreprise qui s'appelle Les Plumes d'Odette. Et je suis la maman d'un petit bébé de 7 mois et demi, Lucien, qu'Anastasia a accompagné à naître au coin du feu en avril dernier. Et demain, Lucien commence la nounou pour pouvoir me laisser un peu plus de temps dans la semaine pour me consacrer à mon travail. Et ce travail qui est très cher à mon cœur et qui... Ça me connecte à cette invitation de se relier à ce grand moment qu'a été la grossesse et la naissance et de toucher à la magie et la puissance.
Merci, merci beaucoup Coralie. Ça me fait chaud au cœur de vous sentir et de vous voir toutes les trois avec nous. Alors, on va commencer nos échanges un peu plus en profondeur. Et déjà, la profondeur est là. Alors, dites-moi, mesdames, alors, tu nous as déjà fait part aussi de ton partage, Émilie, à ce sujet un petit peu, mais pourquoi avoir choisi de vivre une naissance naturelle et physiologique? Alors, le choix de l'accompagnement global, mais surtout de cet aboutissement, de ce cheminement qu'a été le fait d'accueillir naturellement votre enfant. Qu'est-ce qui a été moteur pour vous?
Alors nous, ça a été vraiment une sorte de voyage initiatique dans la parentalité, puisque notre première, je l'ai eue sous péridurale, ce que le commun des mortels appellerait un accouchement classique en maternité, sachant que moi, je ne voulais pas de péridurale. Et puis on m'a dit, tu ne vas pas faire ton homme préhistorique, il y a des nouveautés, de la modernité. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, peut-être que je suis un petit peu bête de ne pas vouloir de péridurale. Voilà. Pour Corentin, mon deuxième, qui est arrivé en hiver, je suis arrivée à la maternité, à mon avis, je ne le savais pas à l'époque, mais en pleine phase de désespérance. Donc, aidez-moi, sauvez-moi, faites quelque chose pour moi. Donc, on m'a posé la péridurale, j'ai fait un malaise dans la seconde, puis j'ai accouché. Donc, je n'avais pas vraiment l'effet de la péridurale en moi, mais quand même, elle était quand même là. Éloi, il a dû comprendre, c'est mon petit lion. Il a dû comprendre que maman, elle n'en voulait pas, cette péridurale. Donc lui, il a juste essayé de ne pas naître dans la voiture. Mais arrivé à la maternité, il est né d'emblée. Et après, j'ai été enceinte de notre petit ange. Et ça a tout de suite été dans notre projet. On voulait une naissance naturelle, à la maison, au calme, sans le stress de la voiture, connectée. Mon mari et moi voulaient que ce soit à deux vraiment et tout ça. Et puis, ben, notre petit bout de chou, son petit cœur s'est arrêté. Et donc, je suis retombée enceinte après une phase de deuil, etc. Et puis, quand je suis tombée enceinte de Gaëtan, il était hors de question pour moi de repartir dans un projet de naissance à la maison, puisque je me suis dit, en fait, j'en suis pas capable, c'était un signe du destin. Et là, mon mari Rémi m'a dit, mais non, Émilie, c'est de ça qu'on a envie tous les deux. Il m'a redonné le courage et l'envie, vraiment. Enfin, il m'a dit que c'était une étape qu'on avait vécue, mais que là, notre bébé, il allait bien et tout ça. Et donc là, on s'est entouré de bonnes personnes, d'Anastasia et de Sarah. Et puis ça devenait en fait comme l'aboutissement de notre projet de famille, comme une évidence. On se sentait prêts, capables. Vous nous avez beaucoup accueillis, beaucoup écoutés. Je pense que Rémi était plus bavard que moi au début.
J'avais plus... Je me souviens.
Voilà. Vous nous avez expliqué ce vortex de la naissance qu'on avait vraiment vécu un petit peu pour Corentin, beaucoup plus pour Éloi, et on mettait des mots sur ce qu'on avait vécu. Et puis j'ai retrouvé dans mon porte-chéquier le petit post-it qu'on avait écrit un jour où on était venu en préparation, on devait mettre les mots qui nous venaient dans notre tête. Alors moi j'avais écrit beauté, bonheur, chaleur humaine, projet en famille, centre du monde et amour. Et ben voilà, la naissance de Gaëtan, ça se résume à ça. C'était vraiment, voilà. Les mots étaient choisis avant, mais c'était vraiment cela. Et Gaëtan est aussi né au coin du feu, donc pour la petite anecdote, c'est Sarah qui était là. Et les derniers mots que j'ai dit, c'était « j'ai soif » parce que j'étais vraiment devant le feu.
Ça arrive souvent, effectivement. Voilà. Quand il y a un poêle ou une cheminée dans la maison, on sait où la maman va accoucher. Merci beaucoup, Émilie, pour ton partage plein d'émotions.
Eh ben, pour nous, c'était... Enfin, pour moi, en tout cas, l'accouchement à la maison, c'était une évidence dès le départ. Alors, je ne sais pas vraiment d'où ça vient, peut-être d'avoir entendu ma grand-mère maternelle me dire qu'elle avait accouché chez elle avec le médecin. Je sais pas trop. Après, du coup, pour notre première, c'est quelque chose qui n'a pas été possible parce qu'à la deuxième échographie, on a découvert une malformation rénale et du coup, on a été beaucoup plus suivis sur le CHU à Amiens et ils nous ont pas laissé le choix que d'accoucher à la maternité du CHU parce que ils envisageaient de faire des analyses directement après la naissance. Donc on s'est orienté sur une préparation en aptonomie avec une sage-femme à Amiens et ça nous a ouvert d'autres horizons, des choses auxquelles on ne pensait pas du tout et ça nous avait vraiment du bien à Guillaume et moi de cheminer là-dedans. Enfin, on a pris notre place chacun et donc c'était un accouchement à l'hôpital. Alors c'est ça qui est un peu particulier, c'est que le premier, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça a été un accouchement, on va dire, naturel, parce qu'il n'y a pas eu de péridurale, il n'y a eu aucune mécanisation de la naissance, mais qui n'a pas du tout été physiologique. Ça a été catastrophique. Je ne vais pas dire catastrophique, mais en fait, ce qui est dur, c'est de prendre du recul, finalement. Après, on en a beaucoup discuté avec Sarah et Anastasia. Et en fait, le moment qui aurait pu être physiologique, vraiment la poussée qui vient des tripes, hyper puissante. J'étais dans la baignoire et la sage-femme est arrivée parce que, évidemment, je commençais à avoir des cris un peu particuliers. Et elle m'a dit « Non, mais vous pouvez pas coucher dans la baignoire, il faut sortir maintenant. » Ah. Du coup, on m'a fait sortir de la baignoire et ça a cassé le processus. Et finalement, on a attendu encore 3 heures et ça a fini par une poussée orientée. Et moi, j'en pouvais plus, j'étais à bout, quoi. J'avais des tremblements dans les jambes, tellement en hypoglycémie, je sais pas, mais c'était... c'était quand même dur, cette naissance, à la fin. On était super contents, et finalement, c'est avec le recul, pas finalement de sa troisième naissance, mais moi, je le sentais au fond de moi, quoi, que c'était pas ça, un accouchement. Pour notre deuxième, c'est quelque chose dont j'avais vraiment envie, d'un accouchement à la maison, et comme j'ai fait une fausse couche entre notre première et notre deuxième et qui a fini en hémorragie à l'hôpital et que j'ai failli être transfusée. Mon mari était vraiment pas pour. Enfin, c'était vraiment dur pour lui d'imaginer qu'il puisse arriver quelque chose d'horrible et de me perdre à la maison. Donc, après des recherches finalement infructueuses, parce que pour trouver une sage-femme libérale, quand on est perdu dans la pampa, c'est un peu compliqué de trouver une sage-femme qui puisse venir jusque chez nous. Donc, ça a été un accouchement aussi au CHU Amiens, qui s'est terminé en césarienne, à J+3. C'était le stress maximum, parce que je ne voulais absolument pas me faire déclencher. Donc ça a été 3 jours après le J0, ça a été un stress affreux pendant 3 jours, de dire il faut absolument qu'elle naisse là maintenant.
Ça c'était un stress aussi pour moi, le déclenchement. Je ne l'ai pas vécu pour aucune de mes grossesses, à part pour mon bébé qui était mort dans mon ventre, qu'on a déclenché. Mais sinon, mes quatre autres enfants, j'avais vraiment un stress d'être déclenchée. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'angoissait.
Ouais, mais ouais, je sais pas, les produits chimiques peut-être.
Oui, je sais pas.
Puis une certaine pression aussi qu'on met sur le corps de la femme.
Ouais, et puis je pense d'avoir conscience aussi de l'impact que ça peut avoir sur notre corps et sur les hormones et du coup ce qui va se passer après quoi, la montée de lait, l'état moral de après tout ça quoi.
Qu'est-ce qu'on va nous injecter, nous mettre
C'est ça.
Pour Éloi, on me l'avait proposé, c'est votre troisième, madame, ce sera plus confortable. Oui, oui.
Et du coup, finalement, pour notre dernière, ça a été trop génial. J'ai serré les doigts jusqu'au bout pour trouver... pour enfin trouver quelqu'un qui puisse nous accompagner. Et pour moi, c'était évident, en fait, d'avoir une sage-femme qui soit là pour la préparation et pour l'accouchement et pour après. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ferait une préparation avec quelqu'un avec qui on prend confiance, qui nous met à l'aise et on se dit oh, trop bien, c'est génial. Et le jour de l'accouchement, en fait, notre père, il n'est plus là. Et on se dit, mais ok, on est livré à nous-mêmes, avec la personne qui nous accompagne. Mais finalement, les gens qui sont là pour nous accoucher, ils nous sont étrangers. Et comment est-ce qu'on peut leur confier quelque chose qui est quand même hyper important dans la vie d'une femme à des gens où on connaît pas leur état d'esprit, quoi, et il faut leur faire confiance, on n'a pas le choix.
Moi, ça me rebondit sur la naissance de Zélie, ma première. Je sais pas, j'ai un moment, je pense que je devenais plus très câblée. Et puis, la sage-femme, elle vient m'expliquer qu'elle part de son service parce que c'est la relevée. Enfin, ça était l'heure que ce soit les autres qui arrivent. Et puis, je me mets à pleurer. Puis, c'est dommage, vous étiez belle. J'aurais bien aimé que ce soit vous le premier visage que Zélie voit. Elle m'avait accompagnée dans le plus compliqué avant la péridurale, les premières contractions. C'était la première fois que j'étais maman et tout ça. Et puis, elle part. Bon, c'est pas évident. Comme tu dis, on a un repère, et puis il s'en va, et on ne sait pas qui va arriver.
Tout à fait, et c'est vrai qu'aussi tout le processus et le tissage qui se crée déjà pendant tout le processus de grossesse, qui est un événement familial, il s'élargit aussi autour de la famille et autour du couple, tout en sachant qu'effectivement, dans le système dans lequel on vit, les sages-femmes et les équipes sont aussi dans des situations un peu compliquées.
Bien sûr.
Bah oui,
mais effectivement, voilà. Mais bien sûr, effectivement, on est là aussi pour pouvoir exposer à cœur ouvert tout ce qui s'est vécu et donner la voix aux femmes. Coralie, est-ce que tu avais terminé, Emmanuel? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Non, mais je donnerai les détails après.
Merci, Coralie. Comment
tu fais un teaser?
Ouais, c'est ça.
J'annonce le scoop. Oui. Alors, moi, quand j'imaginais comme ça, un jour je serais enceinte, tout ça, quand je serais grande, j'avais la vision d'accoucher chez moi avec mes deux meilleures amies, chacune à côté de moi. Et ça me nourrissait beaucoup, j'imaginais comme ça accoucher à la maison. Et puis, au moment où j'ai découvert que j'étais enceinte avec ce bébé surprise qui est arrivé. Moi, j'étais folle de joie parce que je rêvais depuis quelques semaines. Moi, mon envie d'être mère était... J'avais l'impression que le bébé était en train de toquer à la porte, genre « Ah, maman, je suis là !» Et puis, c'était là... c'était pas prévu, on pensait ensemble attendre encore avec Gauthier. Mais ok, il est arrivé. Et pour Gauthier, ça a été quelque chose à accueillir autrement. Voilà. Et du coup, les premiers mois, entre nous deux, il y a eu comme ça un tissage émotionnel différent de ce que j'avais imaginé. Et alors, la question du domicile, en fait, était même parvenue à mon esprit. Comme, ok, privilégions... l'accouchement, comment je peux me sentir en sécurité, voilà, dans un espace où je puisse me sentir moi-même et tout. Et alors, je me suis rapprochée de la maternité d'Asbrook parce que je savais qu'il y avait un accompagnement à la physiologie qui était vraiment encouragé. Je me sentais en sécurité si j'étais là-bas. J'ai vraiment adoré l'accompagnement que j'ai eu les premiers mois avec la sage-femme qui m'a suivie. Et puis un jour, c'était, je me rappelle, le 21 décembre, solstice d'hiver, Gauthier revient des courses à 19h. Il a encore son manteau, il a encore les sacs de courses dans les mains. Et il me dit, mais en fait, faudrait que tu accouches dans la forêt pour que, pour que notre bébé il soit déjà hyper connecté à la nature et tout. Et je me suis retournée, je dis, mais t'es sérieux? T'es sérieux? Et en même temps, t'es sérieux, genre, toi, tu dis ça? Et alors, il me dit, non, c'est impossible, c'est fou, tout ça. Et je dis, non, c'est pas fou du tout. Parce que moi, quand tu me dis ça, il y a tout qui se réveille en moi, là. Je me sens, waouh, c'est comme évident. Et puis, rappelle-toi qu'on a une forêt au bout du jardin. Il n'y a pas besoin d'aller je ne sais pas où, enfin, voilà, s'il y a besoin, genre les pompiers, je ne sais pas quoi, ils arrivent direct dans le jardin, enfin, ça va, ce n'est pas plus fou que d'accoucher dans un immeuble ou je ne sais pas. Et voilà, et là, j'ai commencé à faire des recherches et puis on m'a conseillé Anastasia, et etc., jusqu'à l'accouchement qui, au final, n'a pas pu se faire dans la forêt, même si on a tout fait pour, mais... La première contraction est arrivée comme à 1h35 du matin. Et en fait, tout est allé très vite. C'était en avril, il faisait encore bien, bien froid. Et malgré le fait que Gauthier avait fabriqué 150 mètres de câbles électriques pour pouvoir amener du chauffage dans la tente, dans la forêt. La tente qu'on avait montée la veille et que c'était horrible. Ce truc, on ne comprenait pas comment il fallait faire. Il n'y avait rien d'indiqué. Moi, ça m'a déclenché un espèce de fou rire incroyable, et je crois que ça a fait que la nuit même, tout ça c'est arrivé. Et donc en fait, comme à 5-6 heures, quand on a su que ça allait être là tout de suite, bientôt, Anastasie n'était pas encore arrivée, mais ma doula qui était là a dit à Gauthier, non mais arrête, t'occupes pas des câbles électriques et tout ça, viens, allume la cheminée, on va la coller au coin du feu, parce que là c'est maintenant. Et de fait, en moins de 7 heures, pouf, il était là.
Magnifique. Merci pour ton partage, Coralie. C'est super chaleureux de vous entendre nous raconter vos explorations et aussi toutes les petites anecdotes qui ont peuplé votre cheminement. Et je pense que ça va inspirer aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir. Alors, j'entends beaucoup de joie, beaucoup de belles énergies dans vos partages. Est-ce que vous avez envie aussi de nous partager quels ont été vos défis dans ce processus? Qu'est-ce que vous avez pu rencontrer qui a été soit inconfortable ou soit des peurs, soit des choses qui ont émergé en vous pendant ce processus-là de la naissance?
Ben, moi déjà, il y avait au départ, c'était... le deuil et la reconstruction par rapport à la perte de notre petit bout de chou, il fallait que je me refasse confiance. Voilà, que j'étais encore capable de porter la vie.
Tu l'as perdu à combien de mois?
Il n'a pas été daté en fait, parce qu'on ne sait pas quand je suis tombée enceinte.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc et après, quand il a été vu à l'échographie, on voyait un petit bébé, mais il ne bougeait pas.
D'accord. Bon, en vrai, j'ai porté 6 embryons.
Bah ouais, mais moi je digère pas Enfin, je le digère, mais c'est dur encore.
Non, c'est dur.
C'est dur. Mmh. Ça fait partie de notre histoire, vraiment. Ouais.
Nous, c'est notre. Du coup, la première grossesse et première échographie. Et là, on nous dit malformation. La boîte crânienne n'était pas fermée. Et on nous dit, en fait, il n'est pas viable. Va falloir faire une interruption.
Ça, j'ai pas vécu les
premières grossesses tout seul. On est sortis de là, on était déconfits. C'est des choses qu'on nous...
On nous prépare.
Non, on ne prépare pas. Et, en fait,
et après, on nous épaule pas non plus.
Non, et en fait, j'en ai parlé avec l'école des sages-femmes à Amiens, qui du coup faisait des consultations pour parler de la naissance avant l'accouchement. Et elle nous dit, mais vous imaginez si on disait aux femmes... tous les risques qu'il pouvait y avoir quand on tombe enceinte. Vous croyez que les gens, ils continueraient à faire des enfants? Et j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me dis que, en fait, je pense que oui, les gens, ils continueraient à faire des enfants. Et je ne vois pas pourquoi on cache ces choses-là, parce que ça fait quand même partie. Ben, c'est ça. Mmh. Parce que ça fait partie de nos vies, finalement. Oui.
Mmh. Puis quand on parle, on s'aperçoit qu'on n'est pas un être isolé à avoir vécu. Chacun le porte avec plus ou moins de douleur. Dans mon entourage, j'ai une collègue qui a perdu son bébé, qui avait 3 jours de vie. Et elle arrivait à trouver les mots pour m'apaiser
Alors que moi, ce bébé, je l'avais porté, mais pas porté dans mes bras, je l'avais porté dans mon ventre. Et je me dis, mais quelle force elle a! Et en fait, elle me dit, mais Émilie, c'est pas la durée, chacun le ressent à sa façon. Elle me dit, il faut accueillir. Il faut l'accueillir, il faut le prendre comme ça vient. Donc,
ce qui n'est pas toujours simple. Et quand on est comme ça, en début de grossesse notamment, il y a cette période où toutes nos blessures, entre guillemets, ou tout ce qu'on a pu porter dans notre utérus et dans notre corps, il va se révéler à nous. C'est un peu comme, j'utilise souvent cette image-là en séance, mais dans une grotte de la préhistoire, il y a des dessins, des dessins laissés par les hommes préhistoriques. Et chaque enfant, et on le sait aujourd'hui, chaque enfant qui a été porté par une femme dans son utérus s'implante à un endroit différent. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun enfant qui va s'implanter dans l'utérus de sa mère au même endroit, au niveau du placenta. Et chaque enfant laisse une trace de ce fait dans le corps de sa mère, même physiquement. Et effectivement, cette idée que la naissance porte en elle l'essence de la mort, et que la vie et la mort cohabitent, oui, en fait, ça, au cœur de la naissance et au cœur du processus, du passage, de la transmission de la vie, c'est quelque chose encore dans nos sociétés qui est très tabou et qui n'est pas du tout révélé, et dont on ne parle pas facilement. Donc merci mesdames de pouvoir mettre en lumière vos vécus là-dessus, parce que c'est précieux, effectivement.
Ouais, merci. Moi, quand je vous entends aussi, ça résonne autrement. Alors, je n'ai pas vécu une expérience comme ça. Ça me touche beaucoup de vous entendre, de m'y relier. Et c'est plutôt à l'endroit de mon travail, de comment moi, je peux être amenée à accompagner ça. C'est comme si ça me disait, mais accompagne. Enfin, c'est comme si j'entendais que vous disiez, il n'y a rien pour nous aider, ou il n'y a rien pour être là avec nous. C'est tellement indicible, c'est tellement traumatisant, c'est tellement rude, comme personne arrive à rester à côté de ça sans être terrassé, et personne comme sait trop comment faire. Et une fois, je fabrique des attrape-rêves comme avis thérapeutique, on pourrait dire, ou pour attraper ses rêves, quoi. Et c'est pour ça que j'aime que ce soit personnalisé et tout. Et un jour, j'ai eu une commande d'une grand-mère, d'une jeune mamie, qui me demandait un attrape-rêve pour son fils et sa fille, qui venaient de perdre leur bébé à 4 jours, je crois, de vie. Et c'était quelque chose comme, waouh, cet objet, comment... Alors, elle m'a donné des indications, elle m'a laissé aussi mon intuition. Et cet objet-là, cet attrape-rêve tissé de lui pour eux, c'était du coup, ça devenait un objet qui permettait à ses parents de se sentir déjà, alors en présence de lui... Au final, moi, j'étais pas là, mais cet objet-là, c'est comme, OK, il y a quelqu'un qui nous a écoutés, ou qui est d'accord d'être avec nous et tout. Et aussi, c'était pouvoir se connecter et être en présence de ce bébé, peut-être autrement qu'avec des photos, avec des choses qui peut-être sont comme trop rudes et tout, avoir une manière plus douce comme ça d'être en présence. Et je sais pas, c'est comme si ça me dit, mais continue de faire ça.
On a besoin de... Enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais moi j'ai besoin de savoir qu'il a existé. Il fait partie de notre histoire de famille. Mes enfants savent qu'il a existé. Gaëtan saura qu'il y a un autre bébé qui est venu avant lui. Puis Gaëtan, il a une saveur toute qui est différente, du coup, parce que quand on a vécu un deuil, finalement, lui, il est extraordinaire, ce bébé.
Ce qu'on appelle un bébé arc-en-ciel.
Et il le porte très bien.
Un bébé qui naît juste après un petit ange, comme je les appelle. Et mesdames, alors, puisque vous l'avez vécu et expérimenté, quelles ont été vos... Est-ce que vous auriez une clé, un outil à partager aux gens qui nous écoutent et qui ont pu vivre ce genre d'expérience, comme tu l'as partagé, Coralie, le fait de s'identifier ou de permettre à cette énergie-là d'exister? Est-ce qu'en rapidement, vous auriez envie de partager ce qui vous a aidé, vous?
Alors, moi, il a fallu du temps, déjà. Le temps. J'avais envie de tout... Que tout aille vite retomber enceinte et tout ça. Puis mon corps, il m'a vite expliqué que non, il fallait du temps. Et puis après, je suis allée voir, sous les conseils de collègues de boulot, une dame qui faisait du shiatsu. Alors, je me disais, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et puis, donc, je me suis allongée. Et puis, donc, elle m'a fait les petites manipulations. Puis, à la fin, elle m'a dit, ça va, Émilie? Tout ça. Puis, je lui ai dit,
Je dis, ben, il y avait la tache au plafond, la porte s'est ouverte. Puis je regarde le plafond, puis il n'y avait rien au plafond. Rien du tout. Et du coup, là, après ça, voilà, je me suis sentie libérée. Et je suis tombée enceinte le cycle d'après.
Mmh,
donc, voilà. Et la personne qui m'a manipulée, elle m'a dit, moi, j'ai vu des fleurs roses. Alors, je suis allée lui acheter un azalée à mon bébé. Je l'ai planté dans le jardin. Et quand Gaëtan est né, on a planté le placenta à côté de l'azalée. Comme ça, tout le monde est...
réuni.
Réuni. Ça a bouclé la boucle.
Voilà. Merci, merci, Émilie.
En fait, c'est très dur.
Ouais.
Vraiment. Du coup, pour notre tout premier qu'on a quand même pris, enfin qu'on a décidé de nommer Luna. Au début, je voulais laisser le temps, finalement le processus, enfin le temps de grossesse qu'aurait été, ça aurait été une naissance en août et je voulais pas retomber enceinte avant. Et finalement, ça s'est fait différemment. Et c'est vrai que du coup, ces premiers mois de grossesse, ça a été très très dur à vivre parce que j'avais l'impression de bafouer, de pas laisser cette place à cet enfant-là au final. Et je l'ai mieux accepté pour les deux fausses couches que j'ai fait après parce que j'ai récupéré ce que j'ai perdu et je l'ai redonné à la nature. Et c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup mieux vécu au final. Et le premier, ça a été le processus, il s'est fait avec finalement avec les enfants. C'est les enfants qui ont permis de... Enfin, pas de passer à autre chose, mais de, je sais pas trop, de me réconcilier avec ça. Finalement, comme tu disais, ça laisse une trace sur les enfants. Mmh. Et on a été voir quelqu'un qui travaille sur les énergies, qui est sophrologue, et qui nous a dit, mais il y avait un lien finalement entre les enfants qu'on a aujourd'hui et cette petite Luna. Et c'est lui finalement qui a permis que les choses, elles se réconcilient dans notre famille.
Mmh. Merci, merci Emmanuel. Et merci à vous de pouvoir partager ces moments délicats. Et ça prouve aussi à quel point, au cœur du fait de donner naissance, et quand on s'ouvre à la possibilité de donner naissance à un enfant, on ne sait pas ce qui nous attend. Et le vécu des femmes que vous êtes aujourd'hui et le vécu de toutes les autres femmes, je vous propose de prendre quelques minutes pour le voir à travers mes yeux de sage-femme. Merci mesdames.
Dans le regard d'une sage-femme.
Ainsi, comme l'ont exprimé avec beauté, beaucoup d'authenticité et d'émotion ces femmes aujourd'hui, la naissance porte en elle la possibilité de vivre un processus initiatique, quelle que soit la forme, comme un tremplin vers la rencontre avec ce mystère de la vie et de la mort grâce à cet enfant. Un tremplin vers soi, un tremplin vers l'autre. Et je l'observe souvent aussi, la naissance nous ouvre, hommes et femmes, à nos corps animaux, comme un retour vers cette instinctivité, une animalité qui nous vient des premiers hommes, des premières femmes, comme une marque d'appartenance aussi à notre espèce humaine et mammifère. Et c'est elle qui, du très fond de nos corps, quand on porte la vie, quand on porte la mort, nous demande à nous offrir à ce grand cycle de la naissance, de nous abandonner à elle en nous mettant à genoux à tous les niveaux de notre existence. Car la nature, lorsqu'elle est libre, s'exprime avec puissance et avec sécurité. La nature préserve la terre et quand l'harmonie et l'équilibre sont présents. Ainsi, la naissance est un processus naturel et physiologique pour les femmes et les bébés. Mais j'aimerais aussi vous inviter à ouvrir davantage notre regard, comme nous avons pu le faire déjà à la fin de nos échanges entre femmes, où la vie a donné naissance à la mort aussi, en considérant toutes les formes possibles de naissance et de renaissance, telles des rites d'initiation. Et j'ai vu des femmes qui souhaitaient enfanter naturellement et pour qui cela avait du sens se tourner vers la structure hospitalière pour des raisons de santé, pour
rentrer dans des protocoles médicaux nécessaires pour leur sécurité ou parce que la situation faisait qu'effectivement, parce que le cœur de cet enfant s'était arrêté pour des raisons médicales et de santé, il fallait effectivement donner la main à la structure, au corps médical pour aider son propre corps à accompagner ce processus de la vie. Eh bien, je m'adresse aussi à vous, à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui ont vécu la naissance dans tous ces bouleversements. Eh bien, ce que je leur dis à ces femmes souvent, c'est « quelle que soit la situation, ta physiologie est toujours en toi. Qu'il y ait ou non des médicaments, quelle que soit la forme, sois-en convaincue et plonge dans ta rivière, transcende la forme autour de toi. » Parce que la naissance, c'est aussi tout ça. C'est aussi des femmes et des hommes qui ont vécu, par choix ou non, une naissance avec une péridurale, bien vécue ou douloureuse, des couples qui ont accueilli leurs petits par la voie de la césarienne, programmée, en urgence. Quelle que soit la forme, quelle que soit la technicité qui l'entoure, la naissance reste un miracle. Un miracle, selon la philosophe Hannah Arendt, c'est ce à quoi on ne pouvait pas s'attendre. Et on ne peut jamais rien attendre d'une naissance ou d'un processus de naissance. D'ailleurs, selon la pensée du philosophe Frédéric Spierny, la mise au monde d'un enfant reste un mystère rempli d'espoir qui nous rappelle à notre droit de naissance, la liberté, d'être pleinement et inconditionnellement ce que nous sommes. Dans mes yeux de sage-femme, les bébés que l'on porte nous invitent à nous réapproprier notre liberté pour renaître une fois encore à la femme, à l'homme que nous sommes à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la durée de son existence, en terre ou en ciel, chaque enfant qui vient au monde porte en lui toute la possibilité de faire exister un monde qui n'est pas encore. Par son cheminement, son évolution, cet enfant est une petite graine sacrée, déposée sur la terre au service de son évolution. Alors, quelle que soit la forme qu'a pris la naissance de votre enfant, l'important, c'est comment vous décidez d'habiter et de donner du sens à ce qui s'est vécu pour vous. C'est ce qui fera la différence et qui vous soutiendra, vous et votre enfant, dans votre épanouissement. Alors, en pratique, et pour 2-3 minutes encore, comment faire pour se préparer à vivre la naissance d'un enfant ? Alors je vais m'adresser à nos sages invités après ce partage plein d'émotions et de sagesse. Mesdames, si vous deviez choisir une ressource, un outil pour connecter cette sagesse de vos expériences de vie et de vos cheminements de naissance, qu'est-ce que ce serait ?
Les rituels.
Ah Coralie, les rituels. Raconte-nous.
Alors, je suis psychomotricienne de formation et du coup, les bouquins, les trucs, la tête, ça, c'est bon, j'avais déjà fait. Moi, je savais qu'il fallait que je descende dans mon corps. Et surtout quand j'ai juste lu Michel Audin, le bébé dans ma mammifère. Et je me suis dit, ok, connexion à mon animalité, à ma nature, à la confiance et tout. Et je savais qu'il fallait que je comme lâcher et me connecter comme à l'univers et tout, enfin comme tisser l'invisible, comme dit Karine de Quantic Mama, qui est à peu près la seule chose que j'ai écoutée. Je crois que ma préparation à la naissance, mis à part être accompagnée par Sarah et toi, ça a été d'écouter les podcasts de Quantic Mama. Et alors j'ai fait du coup des tas de rituels. À chaque fois que j'avais un doute, besoin de quoi que ce soit, enfin hop, et c'est comme, je sais pas, mettre en matière... tisser, je sais pas comment dire. Et puis une des choses, c'est que alors j'ai commencé à écrire une sorte de carnet pour mon bébé tout du long de ma grossesse, et puis à un moment donné j'avais besoin de matérialiser mon accouchement rêvé, et c'était, j'ai commencé à dessiner un soir un peu ma vision avec mes symboles et tout. Et puis c'était une manière de dire ok, vas-y l'univers, moi je veux que ça soit comme ça. Tu te débrouilles, mais moi je veux que ça soit comme ça. Et regarde, je ne sais pas si tu te souviens comment j'ai fini par accoucher.
Je me rappelle.
Plus tard, j'ai regardé, j'ai fait mais c'était exactement cette posture, alors que je voulais pas du tout. Pour le coup, j'ai pas dit que je veux accoucher dans cette posture, mais waouh, je me suis dit, mais il est né deux secondes après que tu m'aies dit, mais mets-toi comme ça. Et je voulais pas.
Et c'était ça.
Et c'était ça.
Incroyable. Donc là, j'ai la chance, on a la chance de pouvoir regarder la magnifique création, donc le rituel qu'avait fait Coralie pendant la naissance, juste avant la naissance de Lucien, où effectivement, c'est exactement la posture dans laquelle tu as enfanté. Merci, merci Coralie pour ce partage. Ok, mesdames, en quelques mots, est-ce que vous voulez nous partager un outil, une ressource?
J'ai lu une BD sur tes conseils, je crois, qui est la BD sur la naissance, le tome 1, Découvrez vos super pouvoirs, de Lucille Gomez. Et c'est en fait, génial. Le fait d'avoir un support et de pouvoir le lire, y réfléchir, y revenir, relire, et de vraiment s'imprégner des choses, ça m'a permis de pouvoir accoucher dans ma voiture
dernière. Voilà, parce que tu ne nous avais pas donné les détails, non. Effectivement. Mais...
voilà, le travail s'est fait très rapidement, et le temps de faire la route, en fait. Alors, c'est vrai qu'au début, j'avais envie d'illustrer ça aussi, parce que tu disais juste avant, en fait, on ne peut pas lutter contre la nature, c'est impossible. Non. Et je me souviens être montée dans la voiture et me dire « Oh là là, je vais encore me retrouver dans une position coincée, comme à l'hôpital, semi-allongée. » Et au début des contractions, j'avais les mains entre les jambes, mais j'étais là « Non, je ne veux pas coucher dans la voiture. » Et au final, je me suis dit « Mais je suis sadomaso, c'est quand même hyper puissant, un utérus qui se contracte. On ne peut pas dire que ça fait pas mal, c'est quand même très puissant. »
On ne peut pas lui dire d'arrêter.
C'est ça, et je me suis dit « Mais arrête quoi, c'est bon. » C'est bon, c'est maintenant, c'est dans la voiture, c'est très bien, c'est comme ça.
Et tu t'es laissé faire.
Et complètement.
Et ça s'est fait.
Ouais. Moi, quand j'ai accouché des lois à la maternité, la sage-femme, elle m'a hurlé « Arrêtez de pousser !» Elle est en train de se laver les mains dans le coin. Je fais rien.
C'est ça.
Je fais rien, il sort tout seul, mon bébé. Et donc, il n'a pas attendu pour naître. C'était maintenant, c'était cet instant.
Et c'est l'œuvre de la nature qui nous dépasse. Et voilà, même après une expérience qui peut être... douloureuse, une césarienne ou d'autres expériences, rien n'est jamais terminé et vous avez tout votre pouvoir à reprendre à chaque expérience d'enfantement. Effectivement, merci beaucoup Emmanuel pour ton partage plein de belles énergies. Je me rappelle encore de ton visage et celle de ton mari quand je vous ai découvert devant la maternité avec le bébé dans les bras. C'était vraiment magnifique. Merci. Émilie, encore un mot ou deux ?
Écoute, pour les outils, moi je dirais déjà pour être en paix avec nous-mêmes, avec notre corps, s'entourer de bonnes personnes, de bonnes ondes. Il y a beaucoup de croyances très négatives, fausses sur l'accouchement. Et savoir bien s'entourer, c'est, je pense, se mettre dans notre bulle avant la naissance. Je pense que c'est nécessaire, vraiment. Et puis après, au niveau des petites astuces techniques, j'ai lu la même BD que toi. J'ai adoré, vraiment.
Il y a le 2 qui est sorti, là, même si j'ai déjà
accouché. Alors le 2, je l'avais commandé à Noël l'année dernière, mais il n'était pas sorti.
Non, c'est ça.
Ouais, et j'ai écrit dans les pages blanches du livre, au début à la fin, j'ai raconté tout mon accouchement dedans.
Magnifique.
J'ai dit, voilà, ça doit être mon livre. Et j'ai trouvé que ça mettait des mots sur des choses qu'on allait vivre, ou pas, mais en tout cas... Et puis, ça a donné une évidence à la naissance, à la mune domicile. Et j'ai écouté aussi les podcasts de Quantique Mama qui me voit encore plier les linges de bébé qui sortaient du sèche-linge et l'écouter en même temps.
Super.
Donc voilà, les mêmes outils. Et puis, je pense, voilà, s'entourer de...
d'une personne de naissance. Ouais,
de bonnes énergies.
Super.
Oui, et puis se faire confiance aussi, parce que finalement, il n'y a que nous-mêmes, nos corps savent en fait. C'est juste ça. Faire confiance à nos corps.
Moi, je pense que ça m'a permis d'être en paix avec mon corps, de dire « Tu as réussi ça, bravo
!» Ouais. C'est ça. Et je terminerai par cette phrase de Maëti Trélin qui dit que « La meilleure préparation à cet accouchement que tu vas vivre, c'est cette grossesse. » Donc effectivement, vivez vos grossesses, vivez vos accouchements et c'est ainsi que vous connaîtrez toute la sagesse de cette initiation-là. Alors pour finir, j'aurai la possibilité de partager d'autres références sur les partages, sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Sagesse de Femmes. Et j'aimerais terminer par l'idée globale de notre session.
Eh bien, la naissance, oui, fait partie des grands cycles de la vie. Et comme nous l'avons vu, le cycle de la vie et le cycle de la mort, imbriqués l'un dans l'autre et ne faisant qu'un au service du mouvement de la nature. La naissance, j'aime à dire que c'est un maître bienveillant et impitoyable à la fois, qui nous met à genoux devant l'immense vulnérabilité de notre humanité. Un passage précieux qui nous offre, si l'on veut bien s'y ouvrir, le cadeau de nous rencontrer de nouveau, en tant qu'homme, femme, honnêtement, intimement, et de grandir par la relation à l'autre. Parce que nous sommes des humains et que souvent nous ne savons pas ce qui nous correspond, je vous invite à amener cette tendresse au cœur de toutes vos naissances et renaissances, qu'elles soient triomphes ou épreuves, comme des cadeaux, même si mal emballés, ça reste des cadeaux quand même. Imaginez si toutes les femmes, si tous les hommes, si tous les bébés pouvaient être accueillis comme ça. Si toutes les naissances, quelle que soit leur forme, leur aboutissement, pouvaient être accueillies comme ça. Quelle humanité cela créerait, à votre avis? La liberté par la naissance. À méditer. Merci. Cette émission touche doucement à sa fin. Un immense merci à nos trois précieuses invitées pour leur belle énergie, leur authenticité. Merci aussi à Juan Socorro pour sa musique qui nous accompagne à chaque émission. Et merci aussi à Elsa, notre fée de la technique à chaque fois. Une belle soirée, nous nous retrouverons l'année prochaine pour un nouveau cycle d'émissions avec des thèmes différents et ouverts sur nos cycles de vie et les processus de naissance. À bientôt.